Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre dans l'Immo Lounge, l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier. Gali Baron en votre compagnie. Nous avons eu l'occasion de recevoir dernièrement une jeune architecte qui a pour mission de rendre nos habitats sans doute plus beaux, mais surtout qui nous ressemblent et dans lesquels on se sent bien. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Fiona Benkens, que j'ai le plaisir de réinviter aujourd'hui et qui nous a fait le plaisir de venir. Bonjour Fiona.
Bonjour.
Alors, maintenant, on peut dire que tu as passé un cap. Je te déclare véritablement une habituée de l'Immo Lounge.
Tout à fait, j'ai ma carte de fidélité là.
Exactement, la fois dernière déjà, tu commençais à le devenir, là maintenant c'est officiel, bravo à toi.
Merci.
Alors, j'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de t'écouter précédemment, de réécouter les épisodes précédents, notamment en podcast sur Spotify ou sur YouTube en tapant Immo Lounge. Alors, nous avions eu l'occasion de survoler certaines notions la fois dernière et d'aller un peu plus en profondeur sur d'autres. Après la structure et les couleurs, voyons aujourd'hui ce qu'il en est du sommeil. Et on va sûrement parler de mobilier également. Mais juste avant cela, j'aimerais revenir sur la dernière émission où on avait terminé sur les couleurs. On avait parlé du blanc. Et puis, je me suis posé moi-même les questions. Je t'avais posé juste après, hors antenne. Je me suis dit, tiens, mais moi, j'aime bien le blanc. Je me sens bien dans le blanc aussi. La seule chose, c'est que c'est un blanc qui est légèrement cassé parce qu'on rajoute une petite touche par exemple d'ocre ou d'autres éléments, donc ce n'est pas un blanc pur. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce que tu avais dit sur la froideur du blanc?
C'est vrai que je suis contente que tu reviennes dessus parce que c'est une nuance dont je n'ai pas parlé et qui est extrêmement importante. C'est que dès qu'on sort du tout blanc, on n'est plus dans du tout blanc. On n'est plus dans l'élément de la neige. Et donc, en fait, notre sensibilité aux vibrations des couleurs est vraiment très très développée. Et donc il suffit d'une touche de jaune supplémentaire, une touche de même rosé supplémentaire, enfin, ça peut être n'importe quelle couleur, pour qu'on sorte de la symbolique du blanc. Alors on va peut-être rentrer dans une autre symbolique, et c'est très chouette parce que même les couleurs standards aujourd'hui des entreprises, des hôpitaux je pense pas encore, parce que c'est le grand problème, c'est qu'on associe aussi le blanc fortement à l'hôpital et à la maladie, et on dit même dans la langue française être blanc quand on est malade, donc il y a encore un lien entre la couleur blanche et la maladie, mais en tout cas dans les entreprises, les couleurs standards aujourd'hui commencent à être des couleurs beaucoup plus chaudes dans le blanc.
Voilà, c'est un blanc qui est légèrement plus chaud.
Et ça, c'est, on sort de la notion en tout cas de froideur que peut amener le blanc.
Ok, ben voilà. Tu me rassures et que peut-être quelque
certains auditeurs aussi, évidemment.
Voilà, magnifique. Alors, on va voir l'influence aussi que peut avoir aujourd'hui le positionnement du mobilier. On va également aborder un thème donc sur le sommeil qui est important pour toi. Est-ce qu'au niveau du mobilier, est-ce qu'il y a des règles à suivre pour son positionnement pour mieux?
Évidemment.
je pose la question. Alors, je connais déjà une partie de la réponse.
Avant de rentrer là-dedans, je voudrais quand même faire une parenthèse qui est essentielle. C'est que le lit, la position du lit n'est pas la solution miracle.
Non.
Donc, s'il suffisait de changer un lit de place pour bien dormir, on aurait tous changé notre lit de place et tout le monde dormirait bien. Donc, il y a beaucoup plus à prendre en compte quand on parle de sommeil que la chambre. Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, je vais parler de la chambre et je vais parler de la chambre comme solution miracle quand même. Mm-hmm. Mais je veux quand même faire la parenthèse parce que c'est important de comprendre qu'en général, il y a quand même des choses derrière un mauvais sommeil et que la chambre est un outil supplémentaire pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Mmh. Et ensuite, pour venir sur ta question qui vient au mobilier, il y a évidemment plein de choses à faire dans la chambre pour bien dormir. La théorie entre l'adulte et l'enfant est un peu différente.
Oui.
L'enfant a un lit simple et un besoin de sécurité que l'adulte pourra trouver par la deuxième place dans le lit.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'on doit être deux, mais rien que le fait d'avoir un lit double donne déjà un sentiment de sécurité dont le cerveau a besoin, que l'enfant a beaucoup moins. Et donc, il y a des règles de base pour que le cerveau se sente en sécurité. Comment est-ce que ça fonctionne? On a un cerveau conscient, on a un cerveau inconscient.
Oui.
C'est l'inconscient qui doit pouvoir se sentir en sécurité pour autoriser le sommeil réparateur. pour rentrer dans cette couche-là.
D'accord.
Ça veut dire qu'on peut totalement avoir 8 heures de sommeil et bien dormir, mm-hmm. mais ne pas avoir eu un sommeil réparateur.
Tout à fait.
Parce que si notre inconscient n'est pas rentré dans le lâcher-prise, le sommeil n'était pas réparateur. Et c'est ce qui va expliquer qu'il y a des personnes qui passent leur vie à dormir, mais qui sont tout le temps fatiguées.
C'est ça. Alors, voilà, on n'est pas une émission sur le sommeil, une émission immobilière, mais c'est tellement important de se sentir bien
important.
Chez soi. Quels sont les éléments, par exemple, qui vont faire qu'on va, on va avoir la possibilité de mieux dormir?
Donc, par exemple, même dans une chambre, on va avoir la position du lit. Donc là, il va falloir bien regarder au niveau de l'orientation.
Oui.
Donc, on a des orientations, par exemple, une orientation qui, en général, est très intéressante, c'est tout ce qui est nord-est. Une qui l'est un petit peu moins, c'est tout ce qui est sud-ouest. Donc ça, ce sont voilà, des choses qu'il faut tester. Pas tout le monde est sensible à ça de la même façon, mais la première chose que moi, je regarde, en tout cas, en rentrant dans une chambre, c'est l'orientation.
Alors, juste pour que nos auditeurs comprennent, quand on parle d'orientation nord-est...
Ouais.
C'est quoi dans le lit qui est vers le... C'est la partie qui est la tête qui
tête.
Va vers le nord-est?
Oui, la tête
c'est
qui
ça.
Va vers, tout à fait. Donc c'est, on prend la direction du coussin.
Oui, c'est ça, d'accord. Okay. Donc du pied à la tête,
voilà.
Ça doit aller dans la direction du nord-est.
C'est ça, tout à fait.
Pour être tout à fait bien.
C'est super clair comme
d'accord.
ça. C'est tout à fait ça, donc c'est l'idéal en tout cas. Donc on regarde l'orientation, après on regarde la position du lit. Donc par exemple, un enfant va avoir besoin d'avoir un mur derrière lui
mm-hmm.
et un mur sur le côté. Donc positionner le lit au milieu d'un mur, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment le sentiment de protection des deux côtés. L'adulte va avoir besoin d'un mur derrière.
Donc plutôt en coin, en fait, pour l'enfant.
L'enfant toujours en coin.
D'accord.
Mais après, il y a d'autres principes. Il faut essayer qu'il n'ait pas les pieds face à la porte. Il faut qu'il voit la porte d'entrée. En fait, c'est un puzzle hein, de bien positionner le lit. Tu parlais d'immobilier. Et en fait, c'est vraiment ça la chose. C'est que si la chambre n'est pas pensée pour permettre ça... On a quand même un problème.
C'est ça.
Donc ça, c'est pour l'enfant. Et puis l'adulte, c'est aussi éviter d'avoir les pieds face à la porte et essayer de faire en sorte de toujours avoir une vue sur la porte d'entrée. Et pour donner la petite théorie derrière cette histoire de vue sur la porte d'entrée, parce que je pense que c'est important de comprendre le pourquoi du comment. Simplement, en fait...
Pour être rassuré, peut-être
le cerveau conscient... Admettons que la porte soit derrière nous. Donc on est un mur.
On ne sait jamais ce qui va se passer.
Voilà. Il y a la porte sur le même mur que le lit. Ça veut dire que théoriquement, pour le cerveau, la porte est derrière.
Mmh.
Dans ce genre de configuration, vous allez me dire, mais Fiona, on s'en fout, je sais qu'il ne va rien se passer chez moi. Au pire, c'est mes enfants qui rentrent dans ma chambre. Le stress est à 0.0, il n'y a pas de danger de mort.
Non.
Ça, c'est consciemment. Mais l'inconscient, il n'est pas programmé de la même façon, il est programmé pour nous protéger de tout danger. Donc l'inconscient prendra l'information qu'il n'a aucune idée de ce qui peut se passer derrière vous et que donc il y a un danger potentiel. Si l'inconscient entend danger potentiel, il se met en ce qu'on appelle mode de survie.
Mmh.
Mode de survie, c'est vraiment des principes que vous pouvez rechercher qui s'appelle le FFF, qui est vraiment un principe fight, flight or freeze, qui est une réaction du corps primitif à un stress.
D'accord.
Ça veut dire qu'on est en état d'alerte toute la nuit, en état de vigilance toute la nuit.
Forcément, ça va être un sommeil qui est moins réparateur.
Voilà. Donc ça, ce sont des conseils qui sont directement applicables.
D'accord. Et donc, l'adulte différent de l'enfant?
Oui, toujours.
Okay.
Il y a des principes qui reviennent, mais on traite une chambre d'adulte totalement différente.
Et ça marche à chaque fois?
Non. En fait, comme je disais au début, ça marche quand le problème n'était pas très profond.
C'est ça.
Donc, ça veut dire que quand en fait, on n'a pas de problème émotionnel sous-jacent à une problématique de sommeil, changer le lit de position peut être miraculeux. Donc pour les enfants, ça arrive souvent qu'on change la position du lit et le lendemain, ils dorment. J'ai déjà des enfants chez qui on a enlevé le mobile au-dessus de la tête, qui représente aussi un danger, puisque l'enfant, il ne sait pas réfléchir. Donc il ne sait pas si le mobile il pèse 3 tonnes ou 2 grammes. Donc potentiel danger au-dessus de la tête, mon cerveau reste en alerte. C'est pour ça que beaucoup d'enfants se tournent aussi dans le lit, c'est pour éviter d'avoir un élément au-dessus de la tête.
Okay.
Donc dans des chambres d'enfants, si en fait il n'y a pas de problème sous-jacent, il suffirait de ça pour qu'un enfant dorme bien du jour au lendemain. Et là, ça marche à tous les coups.
C'est ça.
Quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une raison plus profonde qui fait que l'enfant ou l'adulte se sent en insécurité la nuit. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé dans la grossesse, qui a pu faire que l'enfant se sent en insécurité, quel est le stress. Parfois, ça se joue sur la nutrition, parfois, ça se joue sur d'autres choses. Mais en général, c'est un problème émotionnel. Et là où ça marche tout le temps, c'est que si on trouve le problème émotionnel, c'est que changer la chambre, c'est la solution.
Okay.
Parce que du coup, on change l'enfant, on lui donne l'information qu'il peut à partir de maintenant se sentir en sécurité dans sa chambre. Et à partir du moment où on a lâché la problématique, là, c'est tout gagné.
Bon, maintenant, on n'a pas toujours la possibilité de changer, même dans la chambre que l'on a, de faire des changements importants, de changer l'orientation du lit.
Honnêtement, c'est ma plus grande frustration. Et c'est pour ça que j'ai changé mon métier. C'est pour ça que j'ai commencé par les problématiques, parce que j'adore l'architecture et je suis faite pour être architecte, mais j'aime l'humain encore plus. J'aime le thérapeutique, j'aime le psychologique, j'aime comprendre, j'aime creuser. C'est vraiment mon truc.
Oui, grâce à ça, tu allies les deux, bien sûr.
C'est là-dedans que je suis le plus doux. Je suis le plus doué, vraiment. Et donc, quand j'arrive chez un client et que je dois dire « j'ai pas la solution parce que problème d'architecture », c'est très frustrant. Ce qui explique pourquoi maintenant on travaille en construction et en rénovation et on évite ce genre de problème. Donc on est bien d'accord que la solution, elle se joue dans le début, quoi, dans le début du projet.
Mmh. Alors, je te propose de faire une petite pause.
Avec plaisir.
musicale. Lorsqu'on est venu en studio tout à l'heure, on a eu l'occasion de rencontrer un pilier de la radio ici, qui est Didier Cohn de La Matinale. Et je lui avais posé la question, tiens, t'as pas une chanson pour nous? Voilà, je dévoile ce qui s'est passé. Et il m'a dit, tiens, avec un funky, ça peut être sympa. Et il a proposé Funking for Jamaica. Et je trouve que c'est une chouette idée.
Génial.
Écoutons maintenant Tom Brown. Yeah. de retour dans l'Imo Lounge avec notre invitée Fiona Benkens pour parler architecture, parler bien-être chez soi.
Tout à fait.
Alors, continuons avec d'autres questions parce qu'il y en a beaucoup qui concernent notamment le sommeil puisqu'on était, lancé là-dessus. On parlait de la chambre d'enfant.
Oui.
Comment est-ce qu'on gère quand on a deux enfants, trois enfants,
quatre enfants.
Parfois, ils sont dans la même chambre. Comment ça se passe?
La notion la plus...
Je te pose des questions. Tu n'es pas encore maman, mais...
Tout à fait. Mais
par contre, tu as beaucoup de clients qui le sont.
Tout à fait. En fait, il y a une notion qui est essentielle quand on parle de chambre d'enfant. C'est la notion de territoire. Le territoire, c'est un de nos besoins primaires. Et si vous regardez toutes les guerres, toutes les problématiques qu'il y a autour de nous, elles sont très souvent liées à des problèmes de territoire. Les animaux protègent leur territoire. On a tous une notion et un besoin de territoire depuis le début. Aller chez un enfant, aller dans sa maison, la première chose qu'il vous dira, vous êtes un ami des parents, il ne vous connaît pas, mais la première chose qu'il vous dira, c'est « venez voir ma chambre ». Il y a un besoin d'ancrage et de territoire qui est très, très présent. Et donc, ce qu'il faut absolument essayer de faire, c'est de faire en sorte que la chambre d'enfant, l'enfant ressente que c'est chez lui, que c'est son endroit.
Son territoire.
Tout à fait. Et donc, ça se travaille aussi au niveau de la décoration, des symboliques, etc. Quand on met deux enfants dans la même chambre, il faut trouver un moyen que chaque enfant sache qu'il a son territoire. Et ça se joue avec la décoration. On va mettre des meubles pour que le sens d'entrée des enfants soit différent dans la chambre, qu'il y en ait un qui rentre dans un... Même au niveau vraiment du corps, qui rentre dans une direction et l'autre qui rentre dans l'autre. On va aller mettre deux couleurs différentes, quitte à ce que ce soit moche. C'est des enfants. Au début, ce qu'on veut, c'est surtout que chacun soit dans la bonne énergie et puisse évoluer de la meilleure manière possible dans son développement. Et ça peut se jouer totalement au travers de la chambre. On va peut-être mettre un petit tapis ou un petit vinyle au sol pour que chacun ait un marquage de territoire. Et c'est sur des choses comme ça qu'il va falloir jouer, mais il faut absolument que l'enfant sente qu'il ait son territoire.
C'est ça. Mais là, on ne parle pas uniquement de sommeil. On parle de territoire. Ça peut être aussi son petit bureau
ou
autre chose.
Tout à fait. Et c'est parce qu'en fait, on a tendance, pour l'adulte, on pense la chambre beaucoup plus en termes de sommeil et d'intimité. Et l'enfant, il faut vraiment la penser différemment. Et une chambre, c'est beaucoup plus que le sommeil. Ici, on parle du sommeil et c'est le thème d'aujourd'hui, mais il faut se rendre compte que la chambre d'un enfant, c'est beaucoup plus que le sommeil. C'est dans sa chambre qu'on va comprendre comment l'enfant évolue, comment il sent, comment est-ce vraiment son énergie est dans sa chambre. Donc, le développement de l'enfant
se fait dans sa chambre.
Peut être lié à la chambre.
Oui, d'accord. Ouais. Bon, c'est très intéressant tout ça, en tout cas. Et on va évidemment beaucoup plus loin que l'architecture classique, où on va juste essayer de faire en sorte que ce soit soit pratique, soit beau.
Tout à fait.
Soit les deux à la fois.
Tout à fait. Le beau est important, pour l'enfant, honnêtement, un petit peu moins. Pour l'adulte, il est très important parce que c'est quand même la première chose qu'on voit et qu'il faut qu'on se sente bien. Il faut qu'on trouve nos pièces de vie, il faut qu'on les trouve vraiment belles. Mais ce n'est pas la priorité.
Non. Et alors, au niveau du sommeil, donc on est pas tous sensibles de la même manière.
Ouais.
Peut-être qu'une personne sera sensible à son orientation, peut-être que l'autre pas. Voilà, on va partir du principe que tout le monde y est sensible.
Au niveau de la neuroscience, notre cerveau reptilien est quand même programmé de la même façon. Donc, ces histoires d'instinct de survie dont on parlait là tout à l'heure, c'est les mêmes. Donc, peu importe si on en est conscient ou pas, voir la porte d'entrée, avoir un mur plein derrière soi et être bien positionné, ce sera pareil pour tout le monde. Maintenant, il y a des subtilités qui vont être au niveau de la circulation d'énergie. C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais la circulation d'énergie, c'est le courant d'air. Donc, si j'ouvre toutes les portes et toutes les fenêtres, c'est l'air qui passe d'une ouverture à l'autre. Il faudrait éviter de dormir dans une circulation d'énergie. Ça fatigue. Pas tout le monde y est aussi sensible. Il y a des personnes qui vont le ressentir plus que d'autres. Même chose avec l'orientation. On a de la théorie. Maintenant, c'est ce que je dis toujours, testez. Si votre enfant ou si vous êtes orienté sud-ouest et que vous dormez mal, et que vous changez en nord-est et que vous dormez super bien, c'est que vous y êtes sensible. Donc, je pense vraiment qu'on a perdu la notion de s'autoriser à tester. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit sur Instagram, sur Pinterest, on se fait une image d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine.
Tout à fait.
Et on va faire ce qu'on a projeté dans notre tête. On oublie de tester l'espace.
C'est ça. Et lorsque, petite question comme ça qui me passe par l'esprit, mais lorsque tu vas à l'hôtel ou lorsque tu vas dans un Airbnb ou autre... Est-ce qu'il t'arrive de faire un petit déménagement interne ?
Ah, moi, je vais faire un déménagement complet. Et c'est très drôle parce qu'il y a un jeu comme ça qui se joue maintenant sur mes réseaux sociaux.
Oui.
Qui est que quand vous allez du coup dans un hôtel, vous m'envoyez une photo et du coup, je repartage et on voit comment s'est passée la nuit. Et c'est très drôle parce qu'on maintenant, on commence à voir très vite ce qui va pas. Et c'est vrai que dans les hôtels, je ne vais pas en faire une généralité, mais globalement, évidemment que c'est le design qui passe avant.
Oui, puisque on n'a pas l'occasion toujours de penser
voilà,
à ça.
Et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui font la communication, qui font le marketing, qui fait que la réussite même financière et la rentabilité d'un hôtel peut se faire sur la beauté de celui-ci.
C'est ça.
Moi, ce que j'amène quand même comme notion, c'est que vous pouvez trouver l'hôtel aussi beau que vous voulez. Ça va faire du bouche à oreille parce que vous allez partager sur les réseaux et que ça va aider l'hôtel, etc. Si on y dort mal, on n'y revient pas et on n'en parle pas.
C'est ça.
Une mauvaise nuit, on s'en rappelle et on ne retourne pas dans un hôtel dans lequel on a mal dormi. Il peut être aussi beau qu'on veut, si on a mal dormi, on ne retournera pas. Et ça, les hôtels ne l'ont pas encore totalement intégré.
Non, souvent les hôtels, ils vont plutôt avoir la notion de prendre un bon lit.
Oui.
Voilà,
ça, c'est
top, hein. des bons coussins, des choses comme ça. Pas nécessairement l'orientation même du lit, parce que ça, c'est laissé à la base à l'architecte ou à l'architecte d'intérieur. Qui a fait l'hôtel.
Et quelque chose de très pratico-pratique. Vous vous rappelez peut-être, on parlait des mobiles au-dessus de la tête.
Là c'est un vous qui m'est destiné à
non,
moi ou...
Un vous global.
Ah oui, un vous global.
Un vous aux auditeurs.
Je me disais, tu me revouvois.
Non. Un vous global parce qu'on en a parlé là tout de suite. Le mobile au-dessus de la tête de lit d'enfant, c'était une problématique. Il y a les cadres qu'on met au-dessus du lit. Quand on regarde sur les réseaux, on voit ça un peu partout aussi. On met de la décoration, on va mettre une étagère ou des cadres au-dessus du lit où on a une tête de lit avec des choses posées dessus. Consciemment, il n'y a pas de stress. On sait très bien qu'on a accroché ça nous-mêmes et que ça ne va pas tomber. Inconsciemment, c'est toujours le même problème. C'est un élément au-dessus de la tête, c'est un danger potentiel. Si ça tombe, c'est l'inconscient qui doit envoyer l'instinct de survie et le réflexe. Donc, un cadre au-dessus de la tête est suffisant pour ne pas avoir un sommeil réparateur.
Mmh.
Dans les hôtels, il y a des cadres partout.
Ouais.
Et donc ça, c'est un truc, c'est très drôle maintenant, parce que vraiment, les personnes qui me suivent depuis un moment m'envoient qu'elles enlèvent le cadre au-dessus de la tête de lit de l'hôtel, puis qu'elles le remettent le soir, le matin, après la nuit.
Alors je vais devoir y réfléchir personnellement aussi, parce que comme j'aime beaucoup l'art, et j'aime bien avoir des cadres un peu partout.
Ouais. Il y en a au-dessus du lit.
Je ne rentrerai pas dans mon intimité, mais oui.
J'aimerais quand même faire du coup, sauter sur l'occasion pour dire que c'est normal de se dire, mais allez, j'aime bien mon cadre au-dessus du lit et ça me ferait un peu chier de l'enlever, on va le dire les choses comme c'est. C'est normal parce qu'on voit ça partout.
Mmh.
Et donc, on est aussi un peu programmé inconsciemment de nouveau pour se dire, si j'ai pas ça, ça va être moche. Pas ce cadre, ça va être vite. Donc, Fiona, t'es gentille avec tes conseils.
Le côté esthétique prend le dessus.
Ça prend encore le dessus, évidemment. Et parce que si... Allez-y, faites l'exercice, c'est vraiment super intéressant. Allez sur Pinterest et mettez chambre d'adulte. Vous allez voir que 9 photos sur 10 sont avec des cadres au-dessus du lit ou des éléments de décoration au-dessus du lit.
C'est vrai.
Donc comment se projeter quand on ne voit qu'une chose ? On projette ce qu'on a l'habitude de voir, c'est juste un principe inconscient. Et donc, c'est aussi pour vous dire qu'on peut faire les choses différemment et ça peut être très beau d'avoir un lit sans cadre au-dessus et qu'il y a 3 autres murs en général ou 2 s'il y a des fenêtres dans la chambre pour mettre de l'art. Donc des solutions, on en trouve, mais j'avoue que ça demande de parfois sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et de se rendre compte qu'on le fait parce que c'est ce qu'on voit.
Voilà. Et peut-être encore un petit truc, un petit conseil rapide que tu pourrais donner aux personnes qui déménagent, qui vont dans un bien qu'ils louent. Un petit truc pour voir si on est bien, si on se sent bien. Est-ce que tu as ça ?
Une location, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais si on reste sur l'idée que c'est la chambre le plus important, vérifier l'orientation du lit.
Mm-hmm.
S'il y a qu'une... En fait, non, faites même différemment. S'il n'y a qu'une possibilité pour positionner votre lit, faites-vous accompagner pour être sûr que ce soit la bonne.
C'est ça.
Parce qu'il suffit, si vous rentrez dans une chambre et que vous voyez qu'il y a 3 options pour positionner votre lit, vous aurez la bonne. Il n'y a pas de souci. Ou si vous avez 2 chambres et que vous pouvez choisir entre la chambre A et la chambre B, on trouvera toujours des solutions. Si vous rentrez dans un lieu où vous vous rendez compte... le lit de mon enfant ou mon lit, il y a que ça qui fonctionne au niveau des dimensions et de la possibilité.
Il faut être sûr que c'est la
bonne possibilité. Je suggère de faire ou bien une formation pour avoir tous les principes ou bien faire appel à un externe, peu importe. Mais ça, c'est l'essentiel. Si vous voyez qu'il n'y a qu'une option possible.
D'accord, bah écoute, ça y est, il est temps de conclure.
Se quitter.
Ma chère Fiona Benkens, merci à nouveau.
Merci, hein,
d'avoir répondu présent à mon invitation pour nous éclairer de tes lumières, nous permettant ainsi de mieux vivre dans notre intérieur. Je vous rappelle également que si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse gali@radiojudaica.be. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver à la radio toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le 90.2 ou en rediffusion le mercredi matin à 11h sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio, que vous pouvez nous écouter également sur ce que font beaucoup de personnes au travers de nos podcasts sur notre chaîne Spotify Imo Lounge ou également sur YouTube en cherchant Imo Lounge. Merci encore Fiona. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Imo Lounge. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.